Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Alors aujourd'hui, nous faisons connaissance avec Isaac Adjar. C'est un jeune pilote dont le nom circule déjà dans les paddocks et sur les circuits du monde entier. Il est français, d'origine algérienne, et il s'est imposé comme l'un des talents les plus prometteurs de la nouvelle génération de Formule 1. À 20 ans, 11 mois et 3 jours, Isaac Adjar est devenu dimanche le plus jeune pilote français à monter sur un podium, grâce à sa troisième place remportée au Grand Prix des Pays-Bas. Alors François Vantôme, pouvez-vous nous présenter Isaac et l'importance de ses origines pour lui ?
Isaac Adjar, c'est d'abord un jeune homme de 20 ans, né à Paris. Il porte des origines françaises et algériennes, ce qui pour lui crée un vrai pont entre deux mondes. Cette double identité est une force pour lui. Sur la piste, il porte fièrement ses origines tout en courant sous le drapeau français, comme pour rappeler que le sport peut rassembler autant qu'il divise. Sa vision et son énergie viennent aussi de son entourage. Sa mère est là à chaque étape. Elle le soutient et le conseille pendant les week-ends et les longues distances qui viennent avec le pilotage. Son père, physicien quantique, imprègne son approche d'un esprit analytique et méthodique. Lecture des données, démontage des situations et recherche de la perfection dans chaque détail. Grandir à Paris et dans cet environnement mixte a nourri chez lui l'envie de repousser ses limites, d'apprendre des autres et de montrer qu'un rêve peut s'écrire avec discipline et détermination. Représenter ses origines, c'est donc pour lui montrer que le talent peut venir de n'importe où et que la Formule 1 peut devenir un espace où toutes les cultures s'expriment et se reconnaissent.
Isaac, c'est un talent pur. Il a brillé tout au long de son parcours avant de frapper aux portes de la F1.
Le chemin d'Isaac vers la Formule 1 passe par une série de marches typiques des pilotes d'aujourd'hui, mais avec ses propres nuances. Il débute en Formule 4 française où il découvre la rigueur et la compétition à haut niveau et obtient des résultats solides dès 2020. Puis vient la Formule 3 européenne et d'autres programmes régionaux qui lui permettent d'affiner son pilotage, sa gestion des pressions et son travail en équipe. En parallèle, il suit un double programme en 2022 et 2023, notamment en Formule 3 régionale asiatique où il termine 3e et en Europe où il poursuit sa progression. Son passage en Formule 2 est déterminant et en 2024, il termine 2e du championnat et cette performance est saluée comme l'une des meilleures du vivier Red Bull. En effet, soutenu par Red Bull depuis 2022, Isaac franchit les échelons et rejoint Racing Bulls, l'un des bras opérationnels de la firme, pour accéder à la Formule 1 dès la saison 2025.
Ses débuts en Formule 1 n'ont pas été de tout repos. Hein.
Alors les débuts d'Isaac en Formule 1 ont été un vrai apprentissage. Pendant les essais de pré-saison à Bahreïn, il a montré qu'il avait du rythme et une belle envie de bien faire. Bien sûr, tout n'était pas parfait. La voiture nouvelle génération demandait du recul et des réglages. Ses débuts sont compliqués. Lors du tour de formation du Grand Prix d'Australie, il fait un 360 degrés fatal. On l'a compris, sur le plan humain, Isaac a fait montre d'une concentration et d'une volonté de progresser qui rassure ses fans et son équipe. Il insiste sur le fait qu'il veut tirer le maximum de la voiture et qu'il est prêt à faire les efforts nécessaires pour s'améliorer.
Isaac a déjà marqué l'histoire de la Formule 1 française.
En effet, le week-end dernier, à Zandvoort, Isaac Hadjar a écrit une page marquante de sa jeune carrière. Il devient le plus jeune Français à monter sur le podium en Formule 1. Parti quatrième sur la grille, il a pris un départ solide et a su tenir le rang face à une meute de pilotes expérimentés. Tout au long de la course, il a résisté à la pression des leaders et a su garder la concentration sur ses pneus, sa consommation et le rythme. Les derniers tours ont en effet été intenses, mais il a su défendre sa position et franchir la ligne en troisième place. Ce podium a des implications bien plus qu'un simple résultat. Il confirme que Hadjar peut porter haut les couleurs de la France tout en s'intégrant dans le programme Red Bull et Racing Bulls. En termes de carrière, c'est une étape qui peut changer la donne. Elle renforce en effet sa crédibilité auprès de son écurie. Il peut nourrir des espoirs de progression et il peut attirer l'attention des dirigeants sur sa capacité à performer dans des conditions difficiles.
Enfin François, quelles sont ses ambitions et qu'est-ce que l'on peut attendre de lui dans le futur ?
Ses ambitions vont bien au-delà d'un premier podium. Isaac vise l'excellence en Formule 1 et donc pourquoi pas devenir champion du monde. Mais avant, il cherche à maîtriser la voiture, à comprendre les données, à développer une constance, ce qui va lui permettre de lutter pour les plus hautes places week-end après week-end. L'avenir d'Isaac est étroitement lié à l'écosystème Red Bull. Certaines voix évoquent la possibilité d'une promotion au sein de l'équipe principale si les performances suivent, tandis que d'autres soulignent que Red Bull préfère une certaine stabilité aux côtés de Max Verstappen et que les règlements 2026 pourraient redistribuer les cartes. Dans ce contexte, le destin dépendra de ses résultats, de l'évolution technique des voitures et des choix stratégiques de l'écurie.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras?
C'était « Et même après, je t'aimerai » de Oshi en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Deuxième partie d'Europa Voice, je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler maintenant d'Ursula von der Leyen et un incident qui s'est passé pour elle dans un avion. Son avion a eu des difficultés à atterrir, il a dû faire plusieurs cercles et je crois que ça a duré presque une heure ou un peu plus d'une heure pour qu'elle puisse atterrir puisque son système d'atterrissage, donc notamment le GPS, était brouillé et c'est pas quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive à relativement souvent en fait quand on détaille un petit peu, mais là c'est arrivé à la Ursula von der Leyen.
C'est effectivement en fait quelque chose qui, alors je sais pas si c'est rassurant ou pas Christophe, mais
quand on voit la carte ça fait peur.
Voilà, c'est quelque chose qui arrive plus souvent que prévu,
même à des avions civils.
Oui, je parle des avions civils. C'est un brouillage GPS en fait. Ce qui s'est passé, c'est que son avion, il a pu atterrir sans difficulté, mais qu'effectivement il y a des tentatives de brouillage des pistes. C'est effectivement quelque chose qu'on a observé de plus en plus au niveau de la mer Baltique depuis,
comme par hasard,
depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et donc c'est voilà, mais là il y a quelque chose d'effectivement assez symbolique, c'est-à-dire que le faire à la présidente de la Commission européenne à un moment où elle est en tournée en Europe de l'Est, au même moment où Poutine se tourne
vers
la Chine
et la Corée du Nord d'ailleurs
lors de cette réunion avec un paquet de personnalités dont donc vous l'avez dit Corée du Nord, Chine, Russie,
Biélorussie.
Turquie, Biélorussie, il y a quelque chose aussi de très symbolique. Il ne s'est rien passé mais
c'est pas anodin.
C'est pas anodin si on met ça aussi en parallèle de ce qui est en train de se passer dans la préparation des hôpitaux français, ça c'était une annonce de Macron, être prêt à soigner et à accueillir un nombre important de blessés d'une guerre potentielle, les choses avancent pas forcément dans le bon sens, Christophe, en Europe.
Ça sent un peu le roussi quand même globalement. Quand on les attaques s'intensifient, sans que ce soit des attaques encore une fois militaires avec des missiles et comme on peut l'imaginer, mais ça reste des attaques.
Bah, y a les attaques sur le champ de guerre d'abord entre la Russie et l'Ukraine. Il y a les cyberattaques. Ça depuis à peu près 3 ans. Maintenant, on a affaire comme ça à des cyberattaques. Il y a aussi, et je le mettrai sous le chapeau de ce qu'on peut appeler attaque, les questions tarifaires. D'une certaine façon, c'est aussi vu comme une agression là pour le coup du côté chinois notamment. Donc on a beaucoup de ce qu'on appelle de signaux faibles qui montrent que la tension n'est absolument pas retombée malgré le fait que Trump fait encore la promotion d'être le faiseur de paix. C'est vraiment
avec
ce qu'il
cette guerre, il a solutionné cette guerre.
Il nous parle de Israël et de l'Iran, il nous parle de l'Azerbaïdjan, etc.
Rwanda, Congo.
Voilà, mais sur ce terrain-là, sur la question de l'Ukraine et de la Russie, on n'a pas encore trouvé la formule magique et ces signaux faibles. Ces différentes guerres, en fait, ces différents champs d'action, effectivement, s'intensifient à l'heure actuelle.
Le regroupement Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un, il fait peur à plus d'un, quand même. Notamment même sur les cyberattaques, tout simplement.
Oui, donc, alors...
Si vous regardez les cyberattaques, c'est quand même 3 pays qui sont quand même connus pour ce genre d'aventure.
D'accord. Alors, je mettrais cyberattaque, je mettrais aussi ingérence. Hein, c'est,
oui,
c'est ce qu'on a pu observer, d'ailleurs, jusqu'en Australie. Il y a quelque chose aussi de réel politique, j'allais dire. J'aime beaucoup qu'on débatte de ce mot ici à Europa Voice. C'est que pour le président chinois, en fait, c'est aussi plaider pour un monde, et là je le cite, un monde multipolaire juste et ordonné, une gouvernance plus juste et raisonnable. Donc, en fait, le discours officiel, notamment de la Chine, c'est arrêtons d'être dans cette opposition des blocs, mais reconnaissons c'est fini la guerre froide, qu'on est dans un monde qui est multipolaire et qu'il y a les États-Unis peut-être, il y a l'Europe, mais de l'autre côté, il y a aussi le géant chinois. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, et je trouve que ça a été un peu passé sous silence, c'est la rencontre de la Chine et de l'Inde.
Exactement, je voulais qu'on y vienne, parce que je voulais qu'on parle du rôle de l'Inde. Parce que Modi, on en a déjà parlé dans un Europa Voice, il avait un rôle clé, il peut s'allier avec l'Europe, il peut s'allier avec la Chine ou avec la Russie. L'Inde a acheté beaucoup de gaz et beaucoup d'essence à la Russie. S'en cache pas, le rôle de l'Inde est primordial dans cet enjeu.
C'est là où on voit aussi que les choses peuvent aller très vite parce que longtemps, on pensait que l'Inde était vraiment l'ennemi juré de la Chine. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, que ce soit la France avec la stratégie Indo-Pacifique, rappelons-le pour nos auditeurs d'Europa Voice d'espèce, la stratégie Indo-Pacifique, ce contournement des routes de la soie pour faire Paris, Delhi, Canberra, Nouméa, c'était une des premières initiatives, un des premiers discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron.
2017.
L'Australie, elle-même, compte beaucoup sur les échanges bilatéraux avec l'Inde. Et là, on voit bien que l'Inde, elle joue aussi sa partition. Et Modi joue aussi sa partition de réelle politique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ami-ami avec la Chine, parce que d'ailleurs, il y a des exercices militaires conjoints en ce moment entre l'Inde et les États-Unis. Mais ça veut juste dire aussi que l'Inde... n'a pas forcément à vocation de s'aligner sur un acteur ou sur l'autre, mais de jouer sa partition. Et sa partition, c'est aussi la réelle politique. C'est d'être capable d'aller à ces grandes messes avec Xi Jinping, la Chine, et de se confronter aux grands frères, ou en tout cas aux frères, là pour le coup chinois, parce qu'on a 3 milliards d'individus entre les deux. Mais c'est aussi être capable de rester connecté avec les États-Unis. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a peut-être été assez naïf aussi sur le fait que l'Inde était dans la sphère d'influence des pays occidentaux.
Oui, tout à fait. Et juste pour revenir sur la Chine et pour finir là-dessus, la démonstration de force qui a été faite justement devant tous ces hommes politiques, le volume et la qualité des armes chinoises en a surpris plus d'un.
Ah oui, moi j'ai
le
vu
le volume, mais la qualité.
Le volume, les drones. Il y a en fait une production de masse de drones de combat.
Les missiles hyper, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas hyper rapide.
Bah, en tout cas, la Chine fait ce qu'elle fait pour se préparer à toute éventualité. Voilà. Et c'est, mais ça, je veux dire, pour le coup, là, on peut reprocher beaucoup de choses à von der Leyen, mais la présidente de la Commission a aussi compris que Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur ce sujet-là, que l'Europe devait aussi se préparer, que l'Europe aussi devait être autonome en termes de défense. Alors ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que la communauté européenne de défense, c'est un peu un serpent de mer européen, comme les questions budgétaires l'ont été à un moment.
On a dû en parler dans l'épisode 2 d'Europa Voice.
Voilà. mais là, alors est-ce que c'est trop tard ? De toute façon, c'est jamais trop tard ou c'est toujours trop tard. Mais en tout cas, voilà, l'Europe, faut que l'Europe continue de prendre la mesure qu'elle doit assurer son autonomie de défense, son autonomie stratégique. Et puis nous, ça nous permet d'en parler dans Europa Voice, de faire la pédagogie de l'Europe, et puis voilà, à voir ce qui va se passer dans ce monde, encore une fois, que Xi Jinping lui-même qualifie de multipolaire, et de ces guerres en fait qui opèrent sur plusieurs champs de bataille.
Et vous savez comment on termine un Europa Voice ? Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais la pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Je sais qu'on s'aime.
La pluie de Louane en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'est le premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill. Et l'Australie décide d'accepter et de lancer une expédition visant à ramener vivant un ornithorynque jusqu'au premier ministre britannique à Londres. Alors la première question, sachant qu'à ce moment-là, les relations entre les deux pays sont pas vraiment au beau fixe, qu'espère tirer l'Australie de ce geste à l'égard du Premier ministre britannique? Et puis ensuite, eh bien, on va voir effectivement comment tout ça s'est déroulé.
Je vais répondre à votre première question, parce que vous avez dit, et très justement, on ne sait pas pourquoi il était intéressé. Mais Winston Churchill est intéressé parce que c'est un grand aristocrate, c'est un ancien combattant, hein, c'est quelqu'un, c'est un impérialiste surtout. C'est quelqu'un qui s'est battu en Inde, qui s'est battu au Soudan, qui a été correspondant de guerre, à Cuba, puis après dans la Seconde Guerre des Boers. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, avec beaucoup d'argent, beaucoup de statut social, et comme tout bon aristocrate, il aime bien collectionner. Lui, en l'occurrence, une de ses passions, à part la boisson, on le sait, ce sont les animaux exotiques. Encore une fois, parce que c'est un signe de pouvoir. Je veux dire, avoir des lions dans les années 40, c'est pas la même chose que d'avoir accès à un lion aujourd'hui. Bon, ça reste quand même extraordinaire, mais il y a une difficulté supplémentaire dans ces années-là. Et c'est un collectionneur d'animaux exotiques. On lui a offert au cours de sa carrière politique de nombreux animaux. Certains sont retrouvés au zoo à Londres. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un intérêt pour ça parce que ça correspond non seulement à sa classe, à son rang, à sa conception de l'empire également, et puis parce que très clairement ça l'amuse et qu'il aime bien les animaux. Donc ça c'est la première réponse. La seconde. Question que vous m'avez posée par rapport à l'Australie en 43. Oui, on sait bien que les Australiens sont des Britanniques qui ont été déportés. Puis après, vous avez la Fédération de l'Australie en 1901. Donc l'Australie a son propre Parlement fédéral. Mais pendant assez longtemps, la sécurité australienne est assurée par la Grande-Bretagne. Ces décisions sont prises à Londres, au cabinet de guerre, et l'Australie est défendue par les Britanniques. Ça, ils les aident pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle la stratégie de Singapour, à savoir que en cas de guerre, et donc on y est, la Grande-Bretagne, via la Royal Navy, devrait assurer la défense de l'Australie. Sauf que la déferlante impériale japonaise, on pouvait peut-être se prédire, mais pas s'imaginer en termes d'échelle, est accélérée et se propage à une vitesse dans l'Asie Pacifique que le commandement britannique n'aurait survisagé. Et par ailleurs, 41-42, vous avez aussi, Hitler, vous avez aussi Mussolini et puis Staline avant qu'il change de côté. Donc les Anglais se disent il faut qu'on rapatrie notre flotte de Singapour puisque la protection de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'autres dominions se fait depuis ce point fort qu'est Singapour. Singapour est prise par les Japonais, elle chute, les Australiens se retrouvent tout nus, complètement nus, quasiment sans défense, avec une grande partie de leur armée qui est en Europe ou au Moyen-Orient, et ils ont la peur de l'invasion japonaise. Alors, ce qu'on appelle le call to America, ils se tournent vers l'Amérique, hein, ce qui explique beaucoup la relation aujourd'hui qu'on peut observer, pour que les Américains viennent utiliser l'Australie comme base arrière. Hein. Grosso modo, vous avez à peu près 2 millions d'Américains qui sont stationnés là pendant quelques années. On retrouve notre ornithorynque, c'est essayer de rétablir des relations de bonne volonté. Vous avez Winston Churchill qui annonce au ministre australien des Affaires étrangères, à l'époque le docteur Evatt, qui plus tard sera partie des personnes qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU. Bref, Evatt, Churchill lui demande un ornithorynque. Ça lui plairait. Il en a envie plusieurs d'ailleurs. Et alors, on est déjà à une époque où les conservationnistes en fait essaient quand même de minimiser la destruction des espèces dites en danger, parce que la colonisation n'a pas aidé avec les renards, etc., tous les prédateurs que nous avons, enfin que les blancs ont importés dans ce pays. Et Evatt dit ok, on va lancer une expédition, on va essayer d'aller chercher un ornithorynque pour le premier ministre britannique, en espérant s'attirer quelques faveurs. Et puis, si l'histoire se passe bien, c'est quelque chose qui sera apprécié des Australiens, si ça se passe bien.
Et c'est loin d'être gagné d'avance, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les ornithorynques sont quand même des animaux particulièrement fragiles. Et là, on envisage d'en faire traverser un toute la planète en bateau, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est complètement fou, en fait, comme projet.
Oui, ça paraît ahurissant. Et en fait, moi, je me suis posé une question, j'ai pas réussi à trouver la réponse. 43, il y a les avions. Pourquoi aller s'embêter à faire voyager un ornithorynque sur 45 jours, je crois, 50 jours, donc un mois et demi par bateau, alors que finalement, en à peu près 48 à 72 heures, il aurait pu rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, j'ai pas de réponse. Elle est peut-être dans l'installation, en fait, qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en 43. Et 43, on sait pas là où ça va tourner. Hein. On sait pas encore ce qui va se passer. Les Américains s'en prennent plein la figure avec les Japonais dans le Pacifique. Donc, vous imaginez, il faut que le bateau quitte une zone qui est partiellement sous contrôle japonais pour aller traverser l'océan, donc une partie du Pacifique, une partie de l'océan Indien, passer le canal de Suez, effectivement sous surveillance britannique, mais la Méditerranée est infestée de sous-marins allemands, enfin nazis, et puis fascistes chez les Italiens, passer par l'Atlantique, lui aussi infesté de sous-marins britanniques, sous-marins allemands. Donc, on fait courir quand même beaucoup de risques à ces hommes qui montent à bord du bateau pour escorter cet ornithorynque. Et alors, pour que justement le passage se passe dans les meilleures conditions, on lui crée une sorte de vivarium géant pour qu'il puisse dormir, nager. C'est un animal qui vit en grande partie dans l'eau, donc il faut de l'eau fraîche. Et puis des réserves de nourriture abondantes. Sauf que quand on collecte, alors je crois qu'ils avaient amassé plus de 50 000 vers pour nourrir le petit ornithorynque avec quelques œufs également. Le problème, c'est que les vers meurent en cours de route. Donc en fait, en termes logistiques, c'est très très compliqué de déplacer un animal qui pourtant est petit, mais qui a des exigences alimentaires compliquées et un métabolisme et un style de vie très difficile à reproduire. Un lion, tant qu'il est à peu près chaud et vous lui donnez de la viande, a priori, ça passe. J'exagère. Mais alors un ornithorynque, en réalité, reproduire ces conditions de vie, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Un peu comme les poissons exotiques, par exemple, ou l'osmose de l'eau, etc., la chaleur. Tout ça demande énormément d'attention. Et vous avez un monsieur dont c'est le travail d'accompagner cet ornithorynque. Et il prend des notes tous les jours sur ce qui se passe, ce que l'ornithorynque a mangé, la température de l'eau, de l'air, etc.
Et malheureusement, malgré tous ces moyens mis en œuvre pour s'assurer d'une bonne traversée, ce petit ornithorynque qui a été baptisé Winston est finalement retrouvé mort et on est seulement à quelques jours avant l'arrivée au port de Liverpool. Et ce décès, encore jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qu'il a déclenché.
Alors, généralement, c'est toujours l'option la plus simple, c'est-à-dire que, en fait, sortir un ornithorynque et le faire traverser le monde pendant 45 jours dans un bateau qui va changer de climat à plusieurs reprises, a priori, hein, je ne suis pas vétérinaire, mais ça ne semble pas une bonne idée. Alors, ce que les Britanniques ont au début, ça a été un peu caché cette affaire, parce que si ça avait été un succès, évidemment que ça aurait été médiatisé. Ne serait-ce que parce que voilà les relations australo-britanniques, faire traverser un animal qui avait été encore peu reçu en Europe, etc. Là, en l'occurrence, c'est un échec. Donc, c'est un échec qu'on cache puisque on a permis à quelqu'un de faire sortir un animal qui théoriquement ne doit pas sortir, que c'est un peu une faveur gouvernementale. Donc, ça a tout de suite pas, ça sent pas très bon. Et les Britanniques font courir le bruit que l'ornithorynque aurait été traumatisé par les bombardements, l'explosion d'un sous-marin allemand. Alors voilà, vous avez tout un tas de théories sur le pauvre ornithorynque qui serait mort de choc traumatique. Plus récemment, vous avez eu des étudiants de l'Université de Sydney qui ont eu accès à un certain nombre de documents qui sont conservés ici en Australie, dont le petit carnet justement de la personne qui était en charge de surveiller l'ornithorynque. Et en fait, on voit très clairement que les températures d'eau sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaudes. Quand vous passez le canal de Suez, c'est-à-dire que vous êtes sur un endroit qui est très chaud, hein, vous êtes bordé par l'Égypte d'un côté, l'eau du réservoir dans lequel était, enfin, une espèce d'aquarium géant qui avait été construit pour l'ornithorynque, a atteint, il semblerait, 27 degrés. Alors, des ornithorynques, pour vous donner une autre idée, sa vie, en Australie, vous en avez dans les Alpes australiennes, vous en avez pas loin de Canberra, hein, d'ailleurs, ce qui est un endroit effectivement chaud l'été, mais avec de l'eau froide qui vient des Alpes australiennes. Donc, l'hiver, il fait très froid, et l'été, l'eau demeure plutôt fraîche. 27 degrés, là, en fait, ils ont cuit l'ornithorynque, hein, tout simplement.
Ouais.
Donc, je ne peux pas vous le garantir, mais ayant eu des poissons quand j'étais jeune, ce qui n'a peu de rapport avec un ornithorynque, s'ils ne sont pas à la bonne température, généralement, ils ne survivent pas, ils ne s'adaptent pas. Un peu comme nous, hein, d'ailleurs. Sauf que nous, l'amplitude de température qu'on peut supporter, suivant si on est habillé ou pas, comment on s'adapte, elle peut varier de bien nombreuses dizaines de degrés. C'est pas le cas de l'eau pour un ornithorynque. Donc, voilà, je mettrais fort à parier qu'en fait, ce pauvre animal est mort d'un choc thermique prolongé.
On s'arrête là pour aujourd'hui sur cette diplomatie de l'ornithorynque. Elle est donc un échec quant à l'envoi d'un ornithorynque destiné au Premier ministre britannique Winston Churchill. On verra dans la deuxième partie que des Australiens ont fini par réussir à envoyer un ornithorynque à des amis étrangers. Mais ça, ce sera dans quelques jours, dans la seconde partie de cet épisode. À très bientôt.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
jamais je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu vert de la hauteur.
C'était Jeanne Chéral avec sa chanson Rodrigue, qui est tirée de son tout dernier album. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
À l'occasion de la première australienne du film Fanon, dans le cadre du Festival du film africain de Sydney, Africa Film Fest Australia, nous avons le plaisir d'accueillir son réalisateur, Jean-Claude Flamand Barney, une figure emblématique du cinéma francophone et engagé. Jean-Claude Flamand Barney nous amène sur les traces de Frantz Fanon, penseur incontournable de la décolonisation. Jean-Claude Flamand Barney, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Bertrand.
À travers ce long métrage, Fanon, vous interrogez l'héritage et l'actualité de la pensée fanonienne au sein des cultures afro-descendantes à travers le monde. Pourquoi était-il essentiel pour vous de porter son histoire à l'écran aujourd'hui?
Alors, comme vous l'avez dit, Bertrand, c'était justement ça, ma vision ou mon interprétation, c'était de partager ce qu'un jeune lecteur avait pris en conscience, en action, d'une lecture comme Frantz Fanon. Souvent, les gens, d'une façon générale, absorbent les livres, puis en discutent, en réagissent. D'autres qui sont beaucoup plus dans la pédagogie ou dans les études ou dans le doctorat en font des thèses, et où d'autres écrivent scientifiquement sur le parcours de Fanon. Et moi, j'avais vraiment envie de partager, de dire, voilà, qu'est-ce qu'un jeune homme qui a eu 16 ans à un moment a lu Fanon, qu'est-ce qu'il en sort 30 ans, 40 ans après? Qu'est-ce qui sort de lui-même? Pas de ce qui sort, de ce qu'il a entendu autour, mais de son propre corpus, de son propre parcours, qu'est-ce qu'il en a fait de ce Fanon-là? Comment il a vécu Fanon à travers lui et comment il a réalisé en action tout ce qu'il a pris dans ses différents ouvrages?
Ce film mêle archives, fiction et poésie. Comment avez-vous construit ce langage cinématographique pour incarner la pensée de Frantz Fanon, une pensée très profonde et une pensée qui a fait le tour du monde et a inspiré tant de peuples, que ce soit en Australie, à travers le continent africain, dans les Amériques?
C'est ça la grande difficulté, c'est que je pense que chacun d'entre nous, nous avons vraiment une perception très précise, hein, c'est ça qui est drôle, hein, de sa lecture à travers Fanon, parce qu'il parle à chacun d'entre nous d'une façon très particulière. Il ne parle pas de la globalité, il parle à notre individu, à notre organisme, et à notre humanité. Donc chacun d'entre nous l'approprie avec ses propres ressentis, son propre parcours. Quand j'ai décidé de faire ce film, parce qu'avant tout, je pense que je suis un cinéaste, je me suis dit, il va falloir attendre que je sois mûr, prêt, dans ma profession, pour pouvoir attaquer ce sujet. Et donc, j'ai attendu quelques films, aussi quelques parcours, pour dire, voilà, que le film que j'ai envie de faire, c'est d'abord vraiment un film de fiction, pour rendre hommage. C'est aussi un film de pédagogie, pour aussi partager au plus grand nombre ce que je pense, moi, de ce que j'entrevois chez ce Fanon-là. Et puis aussi, c'est lui rendre une juste reconnaissance, parce que je pense que le cinéma s'est jamais attaqué à cette figure d'une façon aussi importante et aussi précise que Sébastien Onomo, mon producteur, me l'a permis.
C'est un des films les plus attendus ici au Festival africain de ciné. Donc, toutes les discussions qu'on entend, c'est un film attendu aussi bien par les communautés aborigènes que par les communautés africaines, et même au-delà des peuples noirs colonisés. Même les réfugiés palestiniens ou les Australiens palestiniens ici à Sydney sont vraiment intéressés par ce film. On a eu un retour vraiment phénoménal de tout ce public qui a hâte de voir ce film. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Alors déjà beaucoup de respect, et c'est là où je me dis qu'il y a un destin, en fin de compte, que Fanon, quand il s'est attaqué, en tout cas, à la décolonisation de l'Algérie, pendant cette guerre-là, il savait très bien que c'était quelque chose qui allait perdurer dans le temps. Nous, en tant qu'entière, on a eu la traite négrière, on a eu la colonisation, donc on sait aussi quel est notre parcours, et aussi l'Afrique. Donc on sait très bien de quoi est nourrie toute cette envie de dominer une population. Et je pense que le peuple palestinien a aussi besoin de se sentir entouré de tous ces peuples autour de lui, pour dire, nous savons ce que vous vivez, parce que nous l'avons vécu. Ils n'en sont pas sortis entièrement parce qu'après, il y a une sorte d'annihilation dans laquelle il faut s'extirper. Mais nous sommes avec vous parce que nous avons vécu dans notre chair, dans notre humanité, dans nos descendances, cette calomnie. Enfin, c'est dur à dire parce qu'on ne trouve jamais de mots assez durs pour définir la colonisation. Et je pense que parfois, le mot en lui-même, il est sous-estimé, quoi.
Ça, c'est un sujet récurrent, un sujet qu'on croyait révolu, mais c'est pas encore fini. Il y a des formes de colonisation, des néocolonisations qui perdurent encore, et il y a des peuples qui sont encore sous le joug de grandes puissances. Pour revenir au film, vous avez utilisé la musique. Comment avez-vous choisi les sonorités qui accompagnent les dialogues entre passé et présent?
Alors, déjà, je suis entouré que de vinyle à la maison. C'est vraiment une ambiance musicale qui m'entoure dans tous mes travaux. J'ai besoin de sentir les œuvres, surtout d'artistes qui ont, comme nous, cette sensation de proposer leur humanité. Et je pense que la musique, c'est ça. Ce sont des artistes mélomanes, peu importe, ou je pense de façon à Miles Davis, à des gens comme ça, qui proposent leur humanité au monde. Et je pense que ce langage-là me sert beaucoup dans mon travail cinématographique. C'est pour moi une sorte de pont qui me permet, quand je me trouve un peu, pas limité, mais quand je me trouve un peu acculé sur une émotion, sur un sentiment, hop, je demande à la musique de m'aider, de faire repartir, de rentrer encore plus à l'intérieur, d'aller chercher encore plus le cœur, encore plus l'âme, pour faire partager encore plus ce que j'ai envie de dire, ou l'image parfois, ou le texte trouve un peu sa finalité. Et cette musique-là a été composée par deux grands, par deux jeunes. Alors, moi, je suis peut-être le plus vieux, mais je chanterai que de jeunes talents, en commençant par mon producteur, par Ludovic Louis, qui est un jeune trompettiste martiniquais, qui est pour moi le futur Miles Davis, mais vraiment, qui vient de Los Angeles, qui est vraiment un martiniquais d'une beauté avec sa trompette, et que quand je l'écoutais, je me dis, mais pour identifier le rythme cardiaque, la personnalité hyper sensorielle de Fanon, il fallait quelque chose qui dépasse son texte. Et Ludovic nous a aidés, moi et Thibaut. Thibaut, c'est celui qui a fait le score de toute la musique, de toutes ces thématiques arabisantes, qui nous a aidés vraiment à essayer de réfléchir sur ce que pouvait être cette mélodie entraînante dans laquelle, et cette souffrance pesante pouvait être le parcours de François Fanon dans ce film. Et je pense que la musique nous a vraiment, vraiment, vraiment donné beaucoup plus d'elle que d'aide.
La musique, c'est vraiment un des langages qui a quand même une très, 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 très grande puissance au sein des communautés afro-descendantes. Et c'est une des influences, d'ailleurs, les plus remarquables des afro-descendants à travers le monde. Et en tant que réalisateur afro-descendant, comment voyez-vous la place des cinéastes francophones noirs dans l'industrie du cinéma global?
Ça fait maintenant 30 ans que je suis dans ce métier, avec un premier long métrage qui date de Nag Maron. Mais je dirais qu'il y a eu beaucoup de dancy. Il y a eu des moments où on pensait que ça allait s'ouvrir, d'autres où ça s'est refermé. Et là, je pense qu'on vit une période assez faste, parce qu'aujourd'hui, le monde s'est ouvert à nous. Vous savez que quand on est enfermé dans notre géographie, alors moi je suis français, et donc du coup ma géographie c'était plutôt l'Europe, et principalement la France. Et là, il y avait une sorte de dictat dans lequel je me sentais vraiment mal à l'aise, parce que si ça marche pas en France, ça marche nulle part ailleurs. Et puis, c'est là où je me rends compte, avec c'est les deux derniers films d'ailleurs, Le Gang des Antilles et puis Fanon, que notre diaspora, elle est vraiment hyper puissante et qu'elle est vraiment de par le monde. Et la preuve même, on est en Australie, quelque chose que j'aurais jamais pu penser dans mes premières œuvres. Et je me dis, voilà, ça y est, on a réussi à se connecter tous ensemble. On a réussi enfin à comprendre que notre art est aussi un art salvatrice, un art aussi universel, qu'on doit la partager à tout le monde. Et que surtout, comme tu l'as dit très justement, c'est que notre façon de regarder le monde, de parler au monde, elle nous est propre et qu'aujourd'hui, elle est vraiment reconnue. C'est-à-dire que, comme exemple, hein, je veux dire que les 3 ou 4 derniers succès en France, ce sont faits par des afrodescendants. C'est qu'aujourd'hui, la musique a fait cette place d'être un peu leader, d'avoir ce leadership dans l'art. Le cinéma, tout d'un coup, devient vraiment une forme de langage qui n'est plus réservé à la comédie, mais qui est réservé vraiment aux émotions dramatiques. Et ça, c'était plutôt l'hégémonie, entre guillemets, des Occidentaux. Nous, c'était un peu la comédie, c'était un peu les trucs un peu marrants. Et nous, on ne voulait pas absolument qu'on parle de nos ressentis, nos émotions. On ne voulait pas qu'on ressente ce qu'on ressentait, parce que c'était trop dur parfois. Et là, je pense que les temps ont changé et que maintenant, tout le monde est OK pour dire qu'on peut être dans un leadership d'émotions. On peut raconter des histoires qui ne sont pas les nôtres, mais qui ressemblent aux nôtres. Et puis, ça fait corps pour tout le monde. Et ça, c'est fort. Et Fanon, justement, est ce film-là je me suis rendu compte pendant. Alors c'est très tôt ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vraiment, il y avait vraiment de tout dans les salles. Et c'était vraiment une sorte de frénésie. Je vous assure, les gens applaudissaient à la fin. C'était comme si on leur avait dit on peut s'aimer. Vous savez, ce côté, on peut se déculpabiliser de tout ce qu'on nous raconte toute la journée, de la haine de l'autre, de la séparation, de la discrimination de l'autre. Et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous dit mais non, mais vous pouvez vous aimer tous ensemble. Il ne faut surtout pas rejeter la peur que l'autre vous fait. Et tout d'un coup, les gens étaient rassurés de savoir que cette émotion-là, qu'on voulait leur empêcher d'avoir, ben on leur disait fièrement, allez-y, et puis soyez fiers et combattez avec ça.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux. Savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares. Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement déteindre. Silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Zao de Sagazan avec sa chanson Les Dormantes en ce dimanche sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.